Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Marc Coloridon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clément Daté. Troisième volet de notre série consacrée aux diverses influences qui travaillent l'espace post-soviétique après avoir parlé de ce que représente l'Union européenne dans les mobilisations de la Biélorussie à l'Ukraine, puis d'avoir parlé de l'influence russe dans le Caucase après l'accord de cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, et avant d'évoquer la montée en puissance de l'islamisme, place à l'influence chinoise. De Bishkek à Nur-Sultan, l'offensive chinoise, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Afin de resserrer nos liens économiques, d'approfondir nos relations mutuelles et de donner un nouveau souffle aux échanges entre les pays eurasiens, nous pouvons innover dans notre coopération en construisant ensemble une ceinture économique avec la nouvelle route de la soie. C'est un projet qui profitera à toutes les populations le long de cette route.
J'ai chargé en Chine et je vais jusqu'à Almaty. Côté chinois, c'est beaucoup mieux. La route là-bas est vraiment bonne. Elle est entretenue et il n'y a pas de trous. J'espère que chez nous aussi, ça va s'améliorer.
Notre président Nazarbayev a signé cet accord avec la Chine. Il y a déjà le train qui va vers Almaty qui fonctionne. Il transporte les matières premières, les voitures et tous les biens d'équipement en direction de nombreux pays différents. Et tout ça passe déjà par cette route-là.
En 2013, en visite au Kazakhstan, le président chinois Xi Jinping exposait pour la première fois son grand projet de route de la soie à l'université Nazarbayev dans la capitale kazakh. Des milliers de kilomètres d'autoroutes et de chemins de fer financés par Pékin, reliant l'ensemble du continent eurasiatique et la perspective d'une nouvelle collaboration économique censée profiter à toutes les populations vivant le long de ces routes. Un projet pharaonique qui n'est pourtant que l'un des aspects de l'influence grandissante de Pékin en Asie centrale. En effet, partout dans la région, la Chine multiplie les investissements et les partenariats. Une stratégie gagnant-gagnant, promet Pékin. Sauf que cette influence grandissante de la Chine commence à poser question, en particulier concernant le niveau d'endettement. Fin octobre, le gouvernement kirghize, touché de plein fouet par la crise sanitaire et secoué par une nouvelle crise politique, a demandé une restructuration de sa dette à la Chine, qui lui a refusé. Voilà qui illustre bien la relation de dépendance dans laquelle se retrouvent désormais les pays d'Asie centrale face à leurs voisins en à peine deux décennies. Alors jusqu'où iront les appétits de Xi Jinping en Asie centrale? Quelle est l'importance stratégique de la région pour la Chine? Jusqu'à quel point Pékin peut-elle avancer ses pions dans ses anciennes républiques soviétiques, terre d'influence russe par excellence? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Marlène Laruelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Depuis Moscou, vous êtes directrice de l'Institut pour les études européennes, russes et eurasiennes au sein de l'Université George Washington. Avec nous également Emmanuel Véron. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes géographe, chercheur associé à l'École navale et à l'INALCO et membre de l'IFRAE, l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Ça fait plusieurs mois, on va commencer avec vous Marlène Laruelle, que le Kirghizistan, j'en parlais dans mon introduction, demande un allègement ou un rééchelonnement de sa dette à Pékin. Il faut savoir que Bishkek, qui est donc la capitale, doit 4,8 milliards de dollars à Pékin. Ça représente plus de la moitié de son PIB, 56% de son PIB. Or, les autorités chinoises viennent de refuser une nouvelle fois, il y a quelques jours, cette restructuration de cette dette. Pour quelles raisons? Et qu'est-ce que cette question de la dette nous dit du niveau de dépendance de ces pays d'Asie centrale envers la Chine?
La question de la dette nous dit que, évidemment, le niveau de dépendance est extrêmement élevé pour le Kirghizistan et encore plus probablement pour le Tadjikistan. Alors, on n'a pas les détails des négociations sur le rééchelonnement parce que c'est, comme toujours, considéré comme secret. Mais ce qui semble apparaître, c'est que la Chine n'a en fait aucun intérêt à autoriser le Kirghizistan à rééchelonner sa dette, puisque ce qui est important pour Pékin, c'est de pouvoir garder la pression potentielle que signifie que vaut la dette, hein, sur le gouvernement kirghize, et pouvoir en jouer le jour où elle en aura besoin. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt pour les autorités chinoises à alléger la dette kirghize et donc à diminuer leur niveau d'influence sur le pays.
Oui, parce qu'en réalité, si le Kyrgyzstan ne paye pas, n'honore pas sa dette, elle va devoir offrir ses ressources naturelles, en tout cas une certaine partie. C'est ça le deal, si je puis dire.
Alors, le deal, il n'est jamais formulé de manière explicite, évidemment, ou en tout cas pas aux yeux du grand public. Mais oui, ce que les experts supposent, c'est qu'en fait, la Chine est intéressée, et pas tant que ça, au repaiement de la dette, mais à pouvoir accéder à certaines des ressources naturelles du Kyrgyzstan, comme ça a déjà été le cas depuis plusieurs années, lorsqu'ils avaient signé un accord de délimitation territoriale. Et puis aussi, potentiellement, de faire pression sur le gouvernement kirghize. Le jour où Pékin en aura besoin, ça peut être sur la question ouïghour, ça peut être sur on ne sait pas quoi, c'est juste une sorte de levier d'influence à être utilisé le jour où il sera nécessaire.
Emmanuel Véron, toutes ces anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale sont concernées par la question de la dette, mais est-ce que elle les concerne de la même manière? Je veux dire, est-ce qu'il faut nuancer l'ampleur du problème ou en réalité, pour tout le monde, c'est un problème vital?
Il semble que c'est pour tout le monde un problème vital à des échelles plus ou moins fines ou plus ou moins importantes selon les États d'Asie centrale. Manifestement, le Kyrgyzstan est impacté, touché, le Tadjikistan probablement encore plus. Je crois qu'il est important de voir à travers cette question de la dette qu'on est manifestement sur l'asymétrie des relations et la possibilité, comme le disait Marlène Laruelle, de levier d'influence très important de côté de Pékin dans une relation absolument asymétrique. Dans les capacités de masse critique politique, diplomatique, économique, démographique de la Chine vis-à-vis des États d'Asie centrale.
Marlène Laruelle, le mois dernier, le Kyrgyzstan a été touché par une nouvelle crise politique. Je dis nouvelle parce que il y a régulièrement des tensions, régulièrement des gouvernements qui tombent. C'est la troisième fois en 15 ans. On a eu des élections législatives dont le résultat a été contesté. On a eu ensuite le départ forcé du président Sooronbay Jeenbekov, qui avait été élu en octobre 2017 avec presque 55% des voix à l'issue d'un scrutin dont on avait salué le caractère libre et démocratique. Ce qui n'est pas si souvent dans ces ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Jusqu'où est-ce que l'on peut corréler cette nouvelle crise politique aux difficultés économiques et en particulier celles qui découlent de cette dette chinoise parce que le Kyrgyzstan est particulièrement concerné? Marlène Laruelle.
Oui, je ne ferai pas un lien direct entre les événements du mois d'octobre et la relation à la Chine. Je pense que la pandémie et la détérioration de la situation économique liée à la pandémie peut avoir eu une influence sur la crise politique du mois d'octobre. Mais sinon, elle était en préparation, si je puis dire, depuis assez longtemps. Déjà, comme vous avez dit, le Kyrgyzstan est à l'habitude de ce type de crise politique au moment des élections législatives. Les mécontentements étaient nombreux. On se préparait à des élections qui allaient être trafiquées. Donc, il y a une combinaison de facteurs, mais qui sont essentiellement des facteurs internes, sans grande influence directe de la Russie ou de la Chine, en fait. Donc, c'est plutôt, je dirais, le contexte général de crise économique qui s'aggrave à cause de la pandémie, qui a probablement accéléré ou aggravé la crise politique. Mais la Chine n'est pas directement partie prenante dans les jeux politiques internes.
Alors, je vais poser la question différemment, Marlène Laruelle. Cet argent qui a été contracté auprès de la Chine, à qui est-ce qu'il a profité? Est-ce que véritablement il a permis un développement significatif du Kyrgyzstan? Est-ce que les retombées ont profité à tout le monde, il y a eu une bonne redistribution? Ou en réalité tout cela n'a profité qu'à une toute petite poignée et en particulier les élites du pays?
Ben, si vous voulez, de manière générale, en Asie centrale, l'argent étranger qui entre n'est pas redistribué de manière démocratique. Hein. C'est les élites qui en profitent, soit directement par des schémas de corruption, soit de manière plus indirecte parce qu'ils arrivent à tirer des bénéfices des nouveaux projets d'infrastructures qui sont construits par la Chine. Et donc, pour le cas spécifique du Kyrgyzstan, tous les projets d'infrastructure qui ont été financés par la Chine, alors évidemment, dans la pratique, les gens peuvent avoir accès à une route, ce qui est toujours un plus. Et on entendait dans les extraits que vous aviez au début, les gens, des gens exprimer leur satisfaction à avoir accès à de nouvelles routes. Mais globalement,
c'est pas rien. Pour faire du commerce, c'est essentiel. Hein. C'est pas rien.
Voilà. Ouais. Mais ce qui est une des critiques permanentes dans toute la région à l'encontre de la Chine, c'est que la Chine n'embauche pas de travailleurs locaux. Et donc, en fait, la Chine contribue à créer peut-être des routes et des infrastructures, mais elle n'aide pas à régler le problème du chômage absolument chronique des populations centra-asiatiques et en particulier des populations kirghizes. Et donc, ça, c'est une critique énorme à l'encontre de la Chine.
Ouais, ce qui produit d'ailleurs en retour un sentiment anti-chinois très fort, on va y revenir. Emmanuel Véron, en juin dernier a été révélé le contenu d'un document assez important pour comprendre la stratégie chinoise en Asie centrale. C'est le livre jaune sur l'Asie centrale. Jusqu'ici, on n'avait pas de documents, j'allais dire, officiels. On se fondait sur des analyses avec les discours des uns, les investissements des autres, etc., etc. Là, on a un ouvrage qui véritablement est rédigé par des experts chinois, spécialistes de l'Asie centrale, et qui expose la stratégie chinoise dans cette région. Qu'est-ce qu'il nous révèle exactement et est-ce qu'il nous dit des choses qu'on ne savait pas déjà sur la manière dont Pékin pense son implantation dans ces pays ?
Oui, la publication, ou en tout cas la publication qui a été effectivement rendue publique au début de l'été de cette année de ce livre jaune sur l'Asie centrale est finalement une synthèse des tactiques et de la stratégie chinoise en Asie centrale depuis au moins deux décennies. C'est-à-dire augmenter une présence tous azimuts, qu'elle soit politique, diplomatique, commerciale, et œuvrer à un contrôle du territoire et un véritable maillage du territoire d'Asie centrale par une politique de prêt, ce qu'on a évoqué avec la dette précédemment, mais également par des investissements dans la construction d'infrastructures. Et ce livre jaune révèle en cela, si vous voulez, cette avancée chinoise dans ces terres qui sont quasi vides d'hommes, ou en tout cas bien moins densément peuplées que ne l'est le territoire chinois, même s'il est inégalement peuplé, et également l'articulation, et je crois que c'est un sujet très important, l'articulation qu'il y a entre politique intérieure chinoise concernant les marges ouest, le grand ouest chinois, des marges non-Han du territoire chinois, et sa politique extérieure en direction de l'Asie centrale. Pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de contrôle territorial et de frontières, mais également pour des raisons, si vous voulez, de collusion, ou en tout cas de très grande proximité, avec les élites post-soviétiques de ces pays d'Asie centrale, pour chacun des pays, Kazakhstan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, et on pourrait même déborder sur l'Afghanistan.
Mais est-ce que l'essentiel, Emmanuel Véron, parce que on sait que la Chine a lancé de très nombreuses exploitations minières dans cette région-là, on a aussi des très importants projets dans le secteur agricole avec de l'allocation de terres sur lesquelles on va cultiver du coton, du blé, du maïs, etc., etc. Est-ce que finalement l'essentiel, c'est pas cela, c'est-à-dire les ressources, avant la question de l'axe commercial, avant d'être une route précisément, avant d'être un passage vers l'Europe?
Je crois que c'est, il n'y a pas d'ordre particulier, c'est tout en même temps. C'est l'impératif de présence tous azimuts. Mais effectivement, le vecteur terre disponible au sens terres arables cultivables est un énorme sujet en Asie centrale avec des dépossessions de terres, soit pour des concessions minières, pétrolières des grands groupes chinois étatiques ou para-étatiques, ou pour du développement agricole, du coton, des céréales, voire du riz, sur des sélections particulières de riz. Effectivement, sur cette logique de besoin de terre, de besoin de matières premières, là, effectivement, la politique étrangère chinoise pour l'Asie centrale y répond tout à fait, absolument. Dans ce cadre-là, vous avez depuis plus d'une vingtaine d'années la signature de grands contrats pétroliers et gaziers partout en Asie centrale, et nous y reviendrons.
Marlène Laruelle, depuis quand la Chine a accentué ses efforts pour justement accroître son influence géostratégique sur l'Asie centrale. Est-ce qu'il vous semble que l'arrivée de Xi Jinping a marqué en la matière une rupture? Est-ce qu'en réalité tout cela a commencé bien avant et dès les indépendances de ces pays avec la chute de l'URSS? Comment regarder les choses là sur le temps long?
Alors sur le temps long, si on prend les 30 années depuis la chute de l'Union soviétique, dans les années 90, en effet, la Chine était assez hésitante. Elle s'inquiétait essentiellement de la relation à la Russie, de la manière dont les conflits territoriaux non réglés allaient être discutés avec les pays d'Asie centrale. Donc l'influence économique était assez limitée. On a une première vague, une première émergence très rapide de la Chine autour de entre 2003 et 2008. Il y a vraiment une explosion là du commerce avec la Chine. Et ensuite, de la mise en place d'une stratégie d'investissement essentiellement et de la Chine se posant en banquier de l'Asie centrale. Et en effet, l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir a vraiment donné une nouvelle impulsion, à la fois dans le discours et dans la présence, mais peut-être même plus dans les discours que dans la présence qui était déjà bien établie. Donc, je dirais, il y a trois étapes, quoi. De la chute de l'URSS jusqu'à la moitié des années 2000, de la moitié des années 2000 jusqu'au lancement des routes de la soie par Xi Jinping. Et donc, maintenant, on est dans cette troisième phase où la Chine a une présence extrêmement forte.
Et le retour, évidemment, en tout cas le revers de la médaille de cette présence qui s'est considérablement accentuée, c'est ce sentiment anti-chinois qui monte dans la région. On va en parler tout de suite.
Depuis combien d'années les Kazakhs sont-ils traités comme du bétail? Les Chinois disent qu'ils n'ont pas l'intention de prendre nos terres, mais ça fait longtemps qu'ils prennent notre travail.
Vous pouvez vendre toutes les ressources. Notre peuple le sait, mais il ferme les yeux. Les Kazakhs sont patients. Mais il y a une limite à tout. Nous comprenons que tout se vend, mais aussi que tout cet argent va bien dans les poches de quelques-uns. Je pense bien sûr aux gens d'en haut. Mais la limite, c'est quand on touche à notre terre. Le peuple kazakh n'autorisera jamais qu'on vende sa terre.
Voilà, suite à une loi sur les terres arables, manifestation anti-chinoise à Aktobe, c'était en avril 2016, filmé par Marat Telluoff, réalisateur qu'on entend justement dans cet extrait de ce documentaire « Chine sur les nouvelles routes de la soie ». Marlène Laruelle, et puis ensuite je vous poserai la même question, Emmanuel Véron, jusqu'où ce sentiment anti-chinois pourrait-il aller? Est-ce qu'il pourrait forcer les pouvoirs en place à remettre en cause cette présence chinoise?
Alors là, je pense que ça dépend des États d'Asie centrale et du degré d'autoritarisme et de pression sur leur propre société dont ils disposent. Hein. Mais de manière générale, en fait, même au Kazakhstan, les régimes ont dû reculer plusieurs fois, en particulier sur la question de la cession de terres arables à des entreprises chinoises, ont dû reculer face à la pression populaire. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience par les régimes centra-asiatiques, qu'ils ont une opinion publique bien plus sinophobe qu'ils ne sont eux-mêmes sinophobes, et donc ils vont devoir gérer dans les années à venir des jeux d'équilibre assez difficiles entre ce qu'ils voudraient vendre à la Chine pour s'enrichir eux-mêmes, ce que la Chine demande d'un côté, et de l'autre, ce que leurs opinions publiques extrêmement sensibles vont répondre. Et les choses se sont accélérées aussi avec la politique anti-Ouïghour des autorités chinoises. J'imagine qu'on y reviendra plus tard, qui a vraiment mis les régimes en difficulté. Hein.
Oui, il semble que le Kazakhstan et le Kyrgyzstan soient davantage touchés que les autres pays par cette sinophobie. Je redis aux auditeurs que, évidemment, quand on discute de l'Asie centrale, c'est mieux d'avoir une carte devant soi, sauf quand on était un spécialiste, des spécialistes comme vous. Et donc, on a diffusé une carte sur le fil Twitter de Culture Monde. Voilà l'information qui est passée. Mais pourquoi est-ce qu'au Kazakhstan et au Kyrgyzstan, il y a une sinophobie particulièrement développée? Est-ce que c'est justement à cause de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire c'est en lien avec le traitement, disons, extrêmement discriminatoire, voire carrément violent, de Pékin vis-à-vis de ces minorités musulmanes et en particulier vis-à-vis des Ouïghours?
Alors, en fait, le sentiment anti-chinois dans ces deux pays était déjà extrêmement fort dans les années 90 et au début des années 2000 autour des enjeux de délimitation territoriale. Il y avait déjà eu des manifestations très importantes anti-chinoises en tentant de pousser les gouvernements locaux à ne pas céder de territoire aux Chinois. Donc, c'est pas la question ouïghour. La question ouïghour vient se rajouter à ce sentiment anti-chinois, mais à l'origine, c'est vraiment une question territoriale et la peur de la colonisation démographique chinoise qui a joué. Et puis, ce sont aussi les deux pays qui ont le plus d'interactions économiques avec la Chine. Donc, là où les citoyens voient l'arrivée de travailleurs chinois, voient la construction d'entreprises chinoises, il y a aussi un certain nombre de débats, en particulier au Kazakhstan, sur l'impact environnemental des entreprises chinoises dans la région. Donc, il y a toute une panoplie, en fait, de critiques envers la Chine dans ces deux pays.
Ouais, et puis c'est évidemment avec ces deux pays-là que les frontières sont les plus longues, tout simplement. Donc les lignes de contact, les points de contact sont les plus importants pour ces deux pays-là. Mais justement, peut-être que Emmanuel Véron, c'est là où les points de contact sont les moins nombreux que le risque pourrait être pour la Chine le plus important. Et là, je pense au Tadjikistan, qui a une frontière avec la Chine, qui est relativement petite, mais qui quand même est là. Et visiblement, il semble que du côté du Tadjikistan, d'abord, le sentiment anti-chinois est aussi assez fort, mais il existe une véritable menace, notamment une menace terroriste liée à un certain nombre de mouvements islamistes, Emmanuel Véron.
Oui, alors le ressentiment anti-chinois ou la sinophobie, effectivement, n'est pas quelque chose de récent et vient nourrir, si vous voulez, un spectre plurivectoriel de revendications, ou en tout cas, potentiellement explosif ou pouvant causer des violences politiques. Et les questions djihadistes et islamistes ne sont pas à l'écart de cela, au contraire. Et on a une collusion selon plusieurs filières, depuis plusieurs décennies maintenant, mais les choses se sont accélérées depuis les années 90, en parallèle de la montée en puissance tous azimuts de la Chine dans ces territoires, de la montée de mouvances islamistes, avec des filières provenant de populations ouïghours de Chine, sorties du territoire et venant trouver des réseaux d'appui logistique et paramilitaires dans ces pays, en particulier au Tadjikistan, avec en arrière-plan l'Afghanistan et le Pakistan. Donc effectivement, la problématique djihadiste et islamiste de violence politique menant à du terrorisme, il y a des actions armées, des actions violentes, n'est absolument pas exclu. On pourrait donner quelques exemples d'atteintes aux intérêts, aux infrastructures chinoises dans ces territoires. Vous avez par exemple un attentat à l'entrée de la représentation diplomatique chinoise en 2016 à Bishkek, où, si vous voulez, devant l'entrée de l'ambassade, vous avez eu une explosion avec des attentats. Vous avez d'autres types d'attaques assez régulières, ou sinon de violences qu'on pourrait qualifier d'anti-chinoise.
Et y compris d'ailleurs sur le territoire chinois lui-même. Si on regarde par exemple le mouvement islamique du Turkestan oriental, qui est une organisation militaire et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste qu'on a vu se lancer précisément dans des opérations en Chine. Il y a eu l'attentat de Urumqi en 2014 qui avait fait 43 morts. Il y avait l'attentat de la place Tiananmen en 2013 qui avait fait 5 morts. Donc c'est un risque, y compris sur le territoire chinois. Marlène Laruelle.
Oui, alors je suis pas spécialiste de ces questions-là de manière très très détaillée, mais je resterai quand même prudente sur ce qu'on veut qualifier de terroriste ou de terrorisme lié à une idéologie islamiste et djihadiste sur le territoire chinois, parce que le degré de propagande du côté chinois est aussi extrêmement élevé. Donc, il y a plusieurs...
Mais là, en l'occurrence, ces deux attentats auxquels je faisais référence sont des attentats qui ont été revendiqués par le mouvement islamique. Donc,
voilà. Mais il y a évidemment ce mouvement islamique, disons, a des frontières floues avec, de manière générale, le ressentiment ouïghour global et bien plus pacifique, ou en tout cas bien plus séculaire, dans leur relation à la Chine. Donc je pense que ça aussi, il faut le prendre en compte. Disons que les mouvements islamistes anti-chinois ne prennent sens que si on les replace dans un contexte général qui est l'agression chinoise à l'encontre des Ouïghours de manière générale.
J'indique aux auditeurs que nous traiterons précisément ce sujet demain. Mais au-delà de cette question du terrorisme, il y a ce sentiment anti-chinois qu'on voit poindre et qui monte en puissance de façon très forte en Asie centrale. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel la Russie, Marlène Laruelle, vous êtes vous en ce moment à Moscou, essaye de surfer pour reprendre un peu d'influence perdue? Et d'ailleurs, peut-on vraiment parler d'un recul de l'influence russe dans cette Asie centrale? Marlène Laruelle.
Alors, il y a au moins deux questions.
Oui, au moins, on a le temps.
Le premier point sur est-ce que la Russie tente de surfer sur le sentiment anti-chinois en Asie centrale, non, parce que la Russie elle-même mène une politique d'amitié et de lune de miel avec la Chine. Donc, au contraire, quand on regarde les médias officiels russes diffusés en Asie centrale, ils sont extrêmement pro-chinois et pas du tout anti-chinois. Donc, en fait, le discours officiel russe sur son alliance avec la Chine est reproduit sur l'Asie centrale. Donc, la Russie ne joue pas là-dessus. Alors, vous avez toujours des milieux nationalistes russes qui, eux, auront un sentiment sinophobe qui projetteront sur l'Asie centrale. Mais non, la Russie ne cherche pas à jouer cette carte-là en Asie centrale. Elle joue plutôt la carte de la bonne entente avec la Chine, même si dans la réalité, bien évidemment, elle se fait du souci sur le risque d'une Chine qui prendrait trop d'élan en Asie centrale, en particulier sur les questions stratégiques que la Russie considère comme critiques. Et de manière générale, la politique russe, enfin l'influence russe en Asie centrale, ça dépend des domaines. Elle avance, elle recule, suivant les domaines, suivant les pays, mais elle se porte malgré tout plutôt bien. De manière générale, en tout cas comparée à ce que beaucoup d'observateurs occidentaux s'attendaient, elle est toujours extrêmement fonctionnelle et présente.
Emmanuel Véron, vous abondez, vous pensez aussi, vous parleriez aussi, vous, de lune de miel à propos de la Chine et la Russie sur ce territoire centra-asiatique ?
Je crois que quand on regarde l'histoire contemporaine des relations Chine-Russie, la question de la fixation des frontières à la suite de la chute de l'Union soviétique a été un sujet essentiel pour Pékin dans ses ex-républiques socialistes soviétiques. Et d'ailleurs, la création de ce qu'on appelle aujourd'hui la coopération de Shanghai, l'organisation de coopération de Shanghai, est une réponse à cela, ou en tout cas est une manifestation de ce nouvel acteur des relations internationales. On discute la Russie et la Chine de ces territoires, entre guillemets, à l'influence partagée. Manifestement, au vu de la politique étrangère russe et de ses moyens, son influence est certes encore très présente, naturellement, dans ces territoires-là, mais n'est plus du tout en capacité, si vous voulez, d'aligner suffisamment de moyens par rapport à ce que la Chine est capable de mettre en place, ne serait-ce que pour des infrastructures, ne serait-ce que pour la mise en place d'une diplomatie tous azimuts sur des instituts Confucius, des partenariats d'État à État, d'institution à institution dans différents domaines, la capacité à avoir construit en 20 à 25 ans un véritable maillage du territoire avec des gazoducs et oléoducs. Véritablement, la célérité des capacités chinoises dépasse dans une certaine mesure les moyens russes, les moyens de la Russie. Donc je crois que la Russie ne cherche pas un terrain d'affrontement direct avec la Chine en Asie centrale, mais sent bien qu'elle perd pied dans une certaine mesure.
Mais Emmanuel Véron, jusqu'ici, on comprend, la Russie et la Chine parviennent à s'entendre sur une forme de partage, mais des guillemets, de l'Asie centrale, tant qu'on reste dans le domaine strictement économique. Et de ce point de vue, vous avez raison de le rappeler, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a été créée en 2001, à laquelle appartiennent et la Russie et la Chine, ainsi que le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, cette organisation a bien joué son rôle. Mais qu'en serait-il si Pékin venait à avoir des ambitions militaires dans la région-ci, par exemple, Pékin décidait d'installer une base dans l'un de ces pays. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est l'ambition de Pékin, mais est-ce que là, on n'aurait pas un problème ?
Alors, si vous voulez, c'est déjà le cas, mais discrètement. Et encore plus discrètement pour nous en Europe occidentale, où c'est un petit peu loin, ces sujets sont un petit peu lointains, et c'est intéressant de les regarder de près. Vous avez une base chinoise, certes modeste, mais qui est à l'image de la présence sécuritaire et militaire de la République populaire de Chine dans ces territoires, à Wakhan. Et donc, il fait la jonction, si vous voulez, avec le territoire frontalier de la Chine et les foyers d'instabilité au cœur de l'Asie centrale. Cette base militaire dans laquelle évoluent des troupes chinoises de l'APL, de l'Armée populaire de libération, parfois d'ailleurs avec des exercices communs des forces armées afghanes. Alors, il faudrait rentrer dans le détail, mais on n'a pas vraiment, véritablement le temps. Se double, si vous voulez, d'une coopération sécuritaire et militaire très discrète de Pékin avec chacun des États. Dans le cadre multilatéral de l'Organisation de coopération de Shanghai, avec, si vous voulez, la thématique de lutte contre le terrorisme, de lutte contre le séparatisme, de lutte contre l'extrémisme. Les fameux trois mots MAUX fondateurs de cette organisation internationale, à laquelle la Russie souscrit d'ailleurs, naturellement. Mais parallèlement, en fait, c'est une grande proximité entre les milieux sécuritaires et de renseignement de la Chine dans ces territoires-là. Et vous avez là-dedans des acteurs phares du milieu de la sécurité en Chine qui aujourd'hui sont derrière les barreaux. Mmh. Mais l'exemple d'un ancien PDG d'une grande compagnie nationale d'exploitation du pétrole, M. Zhou Yongkang, par exemple, qui a été qualifié de tsar de la sécurité, puisque dans la suite de sa carrière, il a été ministre de l'Intérieur, ou l'équivalent de ministre de l'Intérieur de la sécurité publique en Chine, donc c'était un maître espion, avait des réseaux extrêmement forts et puissants dans tous ces territoires d'Asie centrale. Bon, il a été, pour des histoires de corruption, dans des logiques de factions d'opposition à Xi Jinping, mis derrière les barreaux, et il a disparu de la scène publique en 2014. Mais on est manifestement sur l'installation d'un appareil sécuritaire discret, sinon militaire, dans ces régions de la part de la Chine. Pour autant, on n'a pas véritablement, pour le moment, de manifestation de déploiement de troupes, d'intervention sur des théâtres de guerre, etc. Mmh. On a par contre des manœuvres et des exercices conjoints très régulièrement au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai ou d'autres exercices bilatéraux.
Alors, la plupart des pays d'Asie centrale ont été dirigés par des autocrates sur des périodes assez longues, c'est le moins qu'on puisse dire, mais même eux ne sont pas immortels. Sapar Mirat Niyazov est décédé en 2006 après avoir dirigé le Turkménistan pendant 15 ans, idem pour Islam Karimov en Ouzbékistan, décédé en 2016 après 25 ans de pouvoir. Et on a même eu l'année dernière la démission de Nursultan Nazarbayev qui dirigeait le Kazakhstan depuis 28 ans.
Citoyens et sympathisants, je m'adresse à vous aujourd'hui comme je l'ai toujours fait dans les moments les plus importants de l'histoire de notre État que nous construisons ensemble. Mais mon discours d'aujourd'hui est spécial, j'ai pris une décision difficile à prendre, démissionner de la présidence de la République du Kazakhstan.
Ah oui, ça c'est spécial et personne ne s'y attendait. Marlène Laruelle, est-ce que le départ de ces chefs d'État, de Nazarbayev, mais aussi de ceux qui sont décédés, qui ont laissé leur place, s'est accompagné d'une ouverture démocratique où en réalité rien ne bouge et les systèmes restent bien en place? Et puis on verra ensuite comment la Chine joue éventuellement un rôle dans la continuation de ses pouvoirs. Mais d'abord sur le premier volet, est-ce qu'on peut parler de transition politique lorsqu'il y a des démissions ou des chefs d'État qui meurent? Marlène Laruelle.
Alors, à l'exception de l'Ouzbékistan, la réponse est négative. L'Ouzbékistan est le seul cas en 2016, à la mort de Karimov, à avoir eu une transition présidentielle qui s'est accompagnée d'une transition politique, puisque le nouveau président Shavkat Mirziyoyev a mis en place l'équivalent d'une perestroïka, on pourrait dire, pour son pays. Alors évidemment, avec des limites politiques et économiques, hein, il n'est pas question pour les élites en place de céder le pouvoir, mais tout au moins la situation, la relation entre l'État et la société et la place géopolitique de l'Ouzbékistan dans son environnement régional ont énormément évolué depuis 2016. Donc c'est à peu près le seul cas qu'on a au Turkménistan et au Kazakhstan. La transition de président n'a pas eu d'impact sur le régime politique en tant que tel, et en particulier au Kazakhstan, on voit bien que le nouveau président Tokayev continue en fait la ligne décidée par Nazarbayev.
Mais alors justement, s'agissant de l'Ouzbékistan, c'est intéressant, vous nous dites c'est là où on a quelque chose qui ressemble à une transition, même si d'un point de vue politique on tient encore bien les choses, mais en tout cas d'un point de vue économique les choses ont changé, et c'est quand même une petite surprise parce que celui effectivement qui a remplacé Karimov, à savoir Mirziyoyev, était déjà Premier ministre depuis très longtemps, depuis 2003, donc on n'attendait pas forcément de transformation profonde. S'agissant de la relation avec la Chine, est-ce qu'on a vu là une différence? C'est-à-dire, est-ce qu'on a soit renforcé la coopération avec Pékin ou au contraire, on essaye de tenir une certaine distance pour préserver une forme d'indépendance? Est-ce que de ce point de vue-là, on a vu une évolution? Marlène Laruelle.
Alors, De ce point de vue-là, pour l'Ouzbékistan, on n'a pas vraiment vu d'évolution. Karimov s'était déjà largement rapproché de la Chine dans les dernières années de son règne. Et Mirziyoyev continue la même lignée. On a vu une réouverture, disons, ou un re-rapprochement modeste avec les pays occidentaux et avec les États-Unis. Mirziyoyev a d'excellentes relations avec la Russie aussi. Donc, on est plutôt dans une logique de l'Ouzbékistan sortant de ces mécanismes isolationnistes du régime Karimov et s'ouvrant à la coopération internationale et régionale. Mais il n'y a pas d'évolution dramatique dans la relation à la Chine. Et de manière générale, un changement de président, d'habitude en Asie centrale, n'a pas énormément d'impact sur la relation à la Chine, parce que les asymétries sont telles que, de toute façon, quel que soit le président, la relation à la Chine va rester plus ou moins la même.
Emmanuel Véron, est-ce que vous diriez que la Chine joue un rôle dans la continuation de ses pouvoirs politiques? Est-ce qu'il y a une volonté de Pékin de limiter l'ouverture démocratique, ou finalement, ce n'est pas son sujet?
Ah, c'est son grand sujet. C'est absolument son grand sujet. C'est-à-dire que dans le développement des relations avec ces pays entre guillemets neufs depuis la fin 91, donc 30 ans maintenant, il est un impératif politique et diplomatique pour le régime à Pékin, si vous voulez, d'avoir une grande proximité avec ces États-là, en particulier des États limitrophes, ce qui n'est pas le cas de l'Ouzbékistan, mais qui fait partie aujourd'hui de son environnement proche, dans sa logique de politique de bon voisinage ou de la politique dite du pourtour. Et donc d'entretenir de bonnes relations avec les élites politiques, avec éventuellement, si possible, et c'est développé sur ces 20 dernières années, la formation des élites politiques d'aujourd'hui et de demain, avec le financement de bourses dans un cadre particulier sur des sujets de sciences politiques, sur différentes spécialités, qui, formées sur des campus chinois, Pékin, Shanghai ou ailleurs, joueront un rôle politique et économique, financier, etc., demain dans ces États-là. C'est le cas pour le Kazakhstan, de manière très très importante. C'est le cas aussi pour des pays de plus petite dimension comme le Tadjikistan, le Kyrgyzstan ou l'autre grand pays de la zone, l'Ouzbékistan. Donc il y a un intérêt pour la Chine à maintenir, si vous voulez, la nature de ces régimes en place et d'entretenir une proximité forte, y compris dans les élites et dans les schémas économiques.
Sauf que là, Marlène Laruelle, il va y avoir quand même une opposition, parce que ce qu'on sent très clairement, et là c'est partagé par nombre de ces pays, c'est des sociétés civiles de plus en plus vives. Il y a un vent d'ouverture sur la société. Je reprends une formule à vous. Vous dites, les débats télévisés font rage, les polémiques sur les réseaux sociaux explosent, les individus s'expriment plus librement, la peur a partiellement disparu. Il y a un véritable élan sociétal.
Bah, dans le cas de l'Ouzbékistan, oui, de manière très visible.
Même
dans
au Kyrgyzstan.
Le Kyrgyzstan a toujours été plus démocratique et avec une société civile plus active. Donc, d'une certaine manière, le Kyrgyzstan reste ce qu'il a toujours été. L'Ouzbékistan, en effet, s'est ouvert. Et même au Kazakhstan, la démission de Nazarbayev a donné un petit espace pour une société civile plus active. Donc oui, de manière générale, on voit ces sociétés s'activer, se diversifier. Les jeunes générations sont... agissent différemment ou ont des objectifs différents de ceux des générations précédentes dans leurs relations à l'État en général. Donc oui, progressivement, ces sociétés prennent du pouvoir. Et bon, pour le Tadjikistan et le Turkménistan, ce n'est pas vraiment le cas, mais disons que dans les trois autres pays, ça l'est.
Mais est-ce que ces sociétés civiles, pardon de vous couper, sont ciblées par Pékin? Est-ce qu'il y a des attaques très claires envers des militants pour justement cadenasser tout cela? Il y a des exemples probants.
La Chine s'inquiète surtout de ceux qui prendraient la défense des Ouïghours, par exemple. Donc là, il y a des politiques de pression sur les autorités kazakhes pour qu'elles tentent de contrôler ceux qui voudraient défendre les Ouïghours de manière un peu trop visible. Sinon, de manière générale, la Chine ne cherche pas trop à viser les sociétés civiles, parce qu'elle sait très bien que les régimes locaux étant eux-mêmes autoritaires s'occupent de cela très bien, et parce que la Russie, elle aussi, a toute une stratégie pour être sûre que des milieux qui seraient identifiés comme pro-occidentaux seraient progressivement marginalisés. Donc, d'une certaine manière, la Chine n'a pas besoin de faire le travail que la Russie et les gouvernements locaux font déjà, à l'exception de viser spécifiquement ceux qui s'occuperaient de la question ouïghour.
On est avec vous, Marlène Laruelle, et vous, Emmanuel Véron, dans cette semaine consacrée aux espaces post-soviétiques. On va s'intéresser à l'Afghanistan. On sait bien que l'Afghanistan n'est pas une ancienne république soviétique à proprement parler. Il n'en demeure pas moins que, du point de vue de Pékin, le pays fait partie d'un ensemble plus large dont l'importance stratégique est de premier ordre. On va en parler.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
La Chine est un pays très important de cette région et je pense qu'il existe un consensus en Afghanistan et au Pakistan sur le fait que la Chine peut jouer un rôle très constructif pour la paix et la stabilité de la région. Je pense que les relations entre la Chine, l'Afghanistan et le Pakistan devraient être renforcées. C'est très important, important pour la région, important pour l'Afghanistan et important pour le monde.
Voilà, on entendait à l'instant Gerhard Bahir, président du comité politique Hezbi Islami en Afghanistan, qui insistait l'année dernière sur le rôle prépondérant que la Chine doit jouer en Afghanistan. On va retrouver depuis Hong Kong Didier Chaudet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur indépendant, consultant, spécialiste de l'Afghanistan et du Pakistan. Quand on pense à l'Afghanistan et à l'influence de puissances extérieures qui s'y exercent, on pense naturellement aux Occidentaux, en particulier aux Américains qui sont présents depuis presque deux décennies. On pense également à l'URSS qui avait lancé une offensive en 1979 avant de s'y retirer 10 ans plus tard. On pense évidemment au Pakistan voisin qui n'hésite pas à jouer, on le sait, un double jeu en soutenant un certain nombre d'insurgés quand c'est dans son intérêt. Mais on pense moins, voire carrément pas du tout, à la Chine, alors même qu'en réalité, c'est devenu un acteur de premier plan. Aujourd'hui, Pékin, c'est la capitale incontournable en Afghanistan.
Déjà, c'est le principal investisseur en Afghanistan. C'est le seul qui ose essayer d'investir des marchés parfois lucratifs, notamment les matières premières, le cuivre, même le pétrole. Dans une logique presque préemptive, de victoire préemptive, on investit maintenant et même si on ne peut pas développer tout de suite, on développera plus tard. Et il y a toujours eu un rapport aussi à l'Afghanistan qui était sécuritaire historiquement en Chine, face aux Soviétiques d'abord et aujourd'hui face aux Américains. Les Américains tentent de bloquer la Chine dans l'Indo-Pacifique, du côté des mers, en Asie de l'Est. Donc la Chine s'est tournée vers l'Ouest et un élément clé pour que la Chine puisse réussir ses nouvelles routes de la soie en Asie centrale post-soviétique et surtout au Pakistan, c'est la stabilisation de l'Afghanistan.
Didier Chaudet, on sait bien en Afghanistan, les insurgés en tout cas considèrent que les autorités de Kaboul sont des marionnettes des États-Unis et qu'ils n'ont aucune légitimité politique. Est-ce que du côté de Pékin, on est sur cette ligne-là et finalement on a une distance vis-à-vis de ces autorités ou alors au contraire, on mise dessus ? Didier Chaudet.
Les Chinois sont prêts à parler avec tout le monde. C'est une de leurs forces en ce moment en Afghanistan. Ils ont réussi à se rapprocher des talibans, à tisser des liens au moins depuis 2015, à pousser au dialogue inter-afghan, mais ils ne négligent pas forcément le rapport avec les autorités de Kaboul. Ils acceptent de parler avec toutes les forces en présence en Afghanistan pour aider à stabiliser le pays.
Il faut se souvenir que l'année dernière, il y avait eu un dialogue inter-afghan qui avait été organisé à Pékin.
Exactement. Et en fait, depuis 2015, la Chine a été capable de faire venir à une même table, en Chine même, talibans et représentants du gouvernement légal afghan.
Et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on parle à tout le monde. Hein. Il y a déjà 20 ans, en 99, il y a eu un accord entre le gouvernement chinois et le Mollah Omar. Preuve qu'on parle à tout le monde, effectivement, depuis longtemps.
Ah, exactement. Le but pour la Chine, c'est d'éviter une déstabilisation du Xinjiang. Et la grande peur, c'est que des djihadistes ouïghours se trouvant en Afghanistan puissent revenir au Xinjiang. Donc en effet, il y avait eu cet accord avec le Mollah Omar. Si mes souvenirs sont bons, les Chinois ont été les seuls étrangers non musulmans capables à passer un tel deal aussi poussé avec les talibans. Et c'est ce qui explique pourquoi on a retrouvé des Ouïghours plutôt tournés vers le Xinjiang naturellement qui étaient en Afghanistan, se battre et mourir en Ouzbékistan et au Kyrgyzstan à la fin des années 90.
Mais Didier Chaudet, jusqu'où est-ce que justement la Chine pèse dans tout cela ? Parce qu'il y a eu en février dernier, on le sait bien, cet accord avec l'administration américaine, accord passé entre l'administration américaine et les talibans sur ce retrait de l'armée américaine. Depuis quelques semaines, on a ce dialogue inter-afghan aussi qui a été lancé grâce à un échange de prisonniers, environ 5000 talibans contre 1000 membres des forces de sécurité. Alors évidemment, tout n'est pas réglé, mais il y a évidemment des évolutions très importantes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Est-ce que la Chine, est-ce que Pékin a été associé à ces avancées ? Est-ce que, par exemple, l'accord Taliban-États-Unis, est-ce que la mise en place du dialogue inter-afghan, Pékin y est aussi pour quelque chose ?
En fait, la Chine s'est toujours présentée comme un recours, c'est-à-dire que quand ça ne marchait pas entre les talibans et les Américains, quand le dialogue devenait difficile, la Chine se montrait comme l'État qui était prêt à reprendre la main si les Américains n'étaient pas à la hauteur. Et en fait, depuis 2015, on voit derrière porte close cette petite compétition entre États-Unis et Chine. On dit que les deux pays ont les mêmes intérêts. Oui et non, ils veulent tous les deux une stabilisation de l'Afghanistan, mais ils veulent une stabilisation de l'Afghanistan où il serait le principal État responsable de la chose. Et depuis 2015, la Chine agit dans ce sens. Et en fait, ce qui a poussé, à mon avis, l'administration Trump à stay the course, c'est tout simplement de penser que s'il laissait tomber l'affaire, les Chinois pouvaient remporter la mise plus encore que c'est le cas aujourd'hui.
Et alors, du coup, là, évidemment, l'actualité débarque, déboule à plein, Didier Chaudet, parce que on entend depuis quelques jours, quelques heures même, cette idée d'une accélération du retrait des forces américaines en Afghanistan. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a chez Trump le désir peut-être d'affaiblir son successeur dans ce rapport de force avec la Chine sur le terrain afghan ?
Sur l'Afghanistan, il me semble que du côté de l'équipe Biden comme de l'équipe Trump, il était très clair que le nombre de troupes allait être réduite au minimum, quoi qu'il arrive, pour 2021.
Pas à ce rythme.
Donc, pas de grand.
Pas à ce rythme. Là-dessus.
Pas à ce rythme. En effet, Trump veut rester dans les livres d'histoire comme le président qui n'a pas lancé de nouvelle guerre et qui a retiré les troupes américaines des endroits entre guillemets difficiles. Donc là, c'est un jeu politicien très clairement, mais ça reste dans la logique américaine en général, sachant que sur le côté militaire, les Chinois ne vont pas reprendre la main de toute façon. Ils ont bien compris qu'il ne fallait pas s'impliquer directement en Afghanistan. Ils ont donné une aide supplémentaire à l'armée, aux forces de sécurité afghanes. Ces dernières années, entre 2016 et 2018, ils leur ont donné 70 millions de dollars pour l'armée, pour la police. Et du côté des talibans, ils ont renforcé encore les relations ces dernières années. Mais ils essayent d'avoir une influence à distance, sans mettre des soldats chinois sur place.
Donc ça veut dire que l'hypothèse de l'installation d'une base militaire permanente chinoise en Afghanistan est totalement exclue.
Ça me semble être un fantasme pour le coup. Une présence indirecte via le Tadjikistan peut-être, mais une présence directement en Afghanistan avec tous les risques que ça implique, avec le fait que les Chinois en fait maîtrisent relativement peu ce type de terrain, ça serait bien trop dangereux et les risques seraient vraiment trop grands.
Il n'y a pas de discussion sur ce point-là, notamment dans le corridor de Wakhan dont parlait tout à l'heure Emmanuel Véron.
Il y a eu des rumeurs, mais ça, quand on est allé assez souvent à Kaboul, on se rend compte que les rumeurs vraiment ne s'appuient sur strictement rien. Mmh. Il y a eu une rumeur du ministère de la Défense, venant du ministère de la Défense afghane en 2018, disant qu'une délégation chinoise était venue pour discuter de l'éventualité d'une base et de sa zone géographique. Mais on en a de sources ouvertes, on n'a rien eu de plus sur ce type de sujet-là. Mmh. Il me semble que du côté chinois, il y a une confiance sur le fait que les talibans représentent une force importante. En gros, quand on écoute quelqu'un comme Peng Guan, le directeur du Centre d'études internationales de Shanghai, il présente les talibans comme les représentants des pauvres et des campagnes. Donc, une force politique qui est là pour rester. L'Afghanistan légal, l'Afghanistan de Ghani et Abdullah, représente le Kaboul des villes et le Kaboul tourné vers l'Occident, une autre force qu'on ne pourra pas mettre de côté. Donc, faire en sorte d'être en contact avec les deux, dialoguer avec les deux, les pousser à s'entendre, les pousser à une certaine stabilisation du pays, c'est tout ce que cherchent les Chinois. Une présence militaire sur place risque de leur apporter plus de problèmes qu'autre chose.
Emmanuel Véron, vous êtes d'accord avec Didier Chaudet ? Il y a effectivement des patrouilles conjointes avec les forces afghanes et notamment dans le corridor de Wakhan, mais pas d'ambition d'installer une base militaire chinoise. Emmanuel Véron.
Oui, pas d'ambition, si vous voulez, de capacité de projection, d'envergure de mobilisation de troupes de différentes composantes militaires. Certes, en revanche, l'accentuation des relations surtout dans le milieu du renseignement et éventuellement du contre-espionnage, pour effectivement comprendre le paysage politique de l'Afghanistan et le paysage social, si vous voulez, de l'Afghanistan. Pour autant, ce qui n'est pas ou peu visible, en parallèle, si vous voulez d'ailleurs, de la logique de sécurisation des fameuses routes de la soie, et l'Afghanistan n'est pas exclu de ce schéma stratégique de Pékin, c'est le recours à des forces de sécurité, soit paramilitaires, soit parapolicières, sinon de sécurité privée. Et la plupart du temps, ces gens-là sont en fait soit issus des forces spéciales, soit issus d'une formation militaire relativement avancée, au moins en termes tactiques et de protection des sites, voire de protection à la personne. Ouais. On en est là aujourd'hui.
Marlène Laruelle, peut-être en guise de conclusion, c'est intéressant parce qu'on voit bien que là, les Chinois ont bien compris qu'il ne fallait pas y aller. Ces dernières décennies, les deux premières puissances mondiales que sont l'URSS et les États-Unis s'étaient retrouvées prises au piège du bourbier afghan, d'une certaine manière. On voit là combien Pékin a tiré les leçons de l'histoire, du passé, et c'est un bon résumé de la manière dont aujourd'hui la Chine appréhende son lien à cette Asie centrale. Marlène Laruelle.
Oui, absolument. Je pense que la Chine a tiré les leçons des échecs soviétiques et américains. Et la Chine a aussi une manière de faire de la politique et de montrer sa puissance d'une manière relativement différente de ce qu'a été les formes de puissance classique des États-Unis et de l'Union soviétique. Donc la Chine cherche à tirer profit le plus possible des États d'Asie centrale et de leurs richesses, tout en ayant à s'y investir elle-même le moins possible dans les domaines qu'elle considère les plus difficiles et les plus dangereux. Et la question stratégique et sécuritaire est là. Et quand vous voyez les sources chinoises, ils considèrent qu'en fait c'est du devoir des Russes de mettre les mains dans le pot quand il faut, ou les mains dans
le cambouis.
Voilà,
les mains dans le cambouis
en Asie centrale lorsqu'il y a des conflits, parce que ça fait partie de la tradition russe, disons, de participer de manière plus directe dans les conflits locaux, tandis que la stratégie chinoise est d'essayer au maximum de tirer profit sans avoir à se plonger dans le cambouis de manière trop directe.
Avec cette très belle musique produite par un musicien du Xinjiang que l'on se quitte. Merci infiniment à tous nos invités. Didier Chaudet est avec nous depuis Hong Kong, Emmanuel Véron, et merci également à vous, Marlène Laruelle, vous étiez avec nous depuis Moscou, nous avoir éclairé sur cette offensive chinoise dans cet espace post-soviétique. On poursuivra demain cette série, on s'intéressera à la montée en puissance de l'islamisme dans la région. Mais pour l'heure, on retrouve Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors depuis le début de la semaine, Brice, vous nous rendez compte d'un certain nombre d'essais mettant en cause la méritocratie. Si ces critiques convergent, leurs angles d'attaque sont parfois très différents. C'est pourquoi on peut parler de tirs croisés.
Eh oui, prenez Daniel Markovitz, l'auteur du livre « The Meritocracy Trap », le piège de la méritocratie. Au passage, il reconnaît lui-même en être un pur produit. En 15 ans d'études supérieures, il est passé par la LSE londonienne, Oxford, Harvard, puis l'ultra-sélective Law School de Yale, accumulant les doctorats en mathématiques, économie, philosophie, avant de se consacrer au droit, la discipline qu'il enseigne aujourd'hui à Yale. En tant qu'économiste spécialiste des inégalités, écrit-il, j'ai commencé ma carrière intellectuelle en faisant la promotion de la méritocratie. favoriser la mobilité sociale, la possibilité pour les enfants des familles modestes d'accéder aux strates supérieures de la société en se consacrant avec sérieux à des études difficiles, lui paraissait répondre aux nécessités de la justice sociale. Ce qui l'a fait changer d'avis, il a constaté que la méritocratie avait tourné à la reproduction sociale. Les universités qui sélectionnent et forment le gratin de la classe dirigeante, Harvard, Princeton, Stanford, Yale, recrutent davantage, figurez-vous, d'enfants des 1% les plus riches que des 60% situés en bas de l'échelle des revenus. Il y a une explication marginale. Les rejetons des anciens élèves, les fameux alumni, bénéficient de passe-droits, en particulier lorsque ces anciens élèves ont fait preuve de générosité financière envers l'université. Mais le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème, c'est que les enfants des élites surdiplômées sont dorénavant entraînés dès leur plus jeune âge et à grands frais comme de véritables bêtes de concours. Dans les middle schools des quartiers chics de New York, Boston ou San Francisco, il est courant d'exiger des élèves entre 3 et 5 heures de travail personnel tous les soirs. Pas étonnant dans ces conditions qu'au SAT, SAT, les examens donnant le droit de postuler à l'admission à l'enseignement supérieur, les résultats de ceux dont les parents affichent des revenus annuels supérieurs à 200 000 dollars obtiennent des résultats de 250 points supérieurs à ceux dont les parents gagnent seulement entre 40 000 et 60 000 dollars, ce qui est considéré comme la classe moyenne aux États-Unis. La soi-disant méritocratie américaine est devenue une machine à l'auto-reproduction des élites, d'autant que ses membres se marient entre eux, engendrant des enfants dotés d'un capital génétique très supérieur, comme le montre David Goodhart, l'un des rares auteurs à oser s'aventurer sur ce terrain miné de l'hérédité. Le réquisitoire de Daniel Markovits contre la méritocratie s'appuie sur un phénomène qu'il est à peu près seul à prendre en considération, le surtravail exigé de la minuscule élite sociale. Alors que l'ancienne élite, celle de l'aristocratie, se considérait comme une classe oisive, écrit-il, les méritocrates travaillent avec une intensité sans précédent. La sélection par les études exige des aspirants méritocrates une quantité de travail astronomique. Elle provoque une véritable épidémie de dépression chez les lycéens de certains quartiers habités par les élites. À la fin d'études supérieures qui se sont déroulées dans un contexte de compétition exténuant, les jeunes diplômés estiment devoir rentabiliser le capital humain ainsi acquis, compétences, réseaux relationnels, notoriété. Or, les jobs très bien payés aux États-Unis se concentrent dans la finance, le management, les cabinets d'avocats et les spécialisations médicales. Markovits a constaté que ses anciens étudiants engagés dans ces professions travaillent couramment 12 heures par jour, 6 jours sur 6, et ne prennent pratiquement jamais de vacances. Plus vous grimpez les échelons hiérarchiques, plus on attend de vous que vous travailliez encore davantage. C'est pourquoi ce professeur de droit estime que la révolte contre la méritocratie viendra aussi des méritocrates eux-mêmes. Ses membres voudraient retrouver une vie normale.
Et la critique de la méritocratie de Michael Sandel dans The Tyranny of Merit, What's Become of the Common Good, est très différente, Brice.
Eh oui, parce que selon ce philosophe vedette, l'ascension de la méritocratie a coïncidé avec un écartement extravagant dans la hiérarchie des rémunérations, notamment dans le système où le gagnant emporte la mise, the winner takes all, d'où une hubris méritocratique par laquelle les super diplômés, qui sont en général aussi riches, puissants et bien connectés, méprisent ceux qu'ils considèrent comme des ratés méritant leur sort minable. Mais si le succès récompense le plus souvent le talent et l'effort, ce n'est pas toujours le cas. Le facteur chance est également très important. Et surtout, la richesse, la puissance et la notoriété sont fortement déconnectés de l'utilité sociale. Pensez qu'un directeur de casino à Las Vegas gagne plusieurs fois par mois ce qu'un professeur gagne dans l'année. Drôle de méritocratie.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France. On vous retrouve demain. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.